La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N. Hélène Maquet.
Le gouvernement a donc donné son accord pour le déploiement des 16 premiers missiles.
Nous sommes des centaines de milliers de gens conscients de l'enjeu pour la paix.
Je crois que la guerre naît du déséquilibre, de l'inégalité des forces.
Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Ainsi s'exprima Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, après le premier essai d'une bombe dans le désert du Mexique.
La destruction mutuelle assurée, c'est la base de la dissuasion nucléaire censée permettre l'équilibre de la terreur et d'éviter la Troisième Guerre mondiale.
Jusqu'en 1987, Américains et Soviétiques n'ont cessé de construire des missiles nucléaires. Durant la guerre froide, la course aux armements ne semblait jamais finir.
Mais cette doctrine n'a pas convaincu tout le monde. Dans les années 80, l'installation de missiles nucléaires américains en Belgique déclencha une forte contestation populaire et un débat intense.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. La guerre en Ukraine fait renaître le spectre d'une guerre en Europe et d'une confrontation entre la Russie et l'OTAN. La menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine nous replonge dans un temps que toute une génération ne pensait plus jamais connaître. La dernière fois que ce spectre a hanté l'Europe, c'était dans les années 80, autour de l'installation des euromissiles, des missiles nucléaires que Russes et Américains installaient en Europe pour se neutraliser.
On a donc décidé de se replonger dans cette période pour mieux comprendre ce qui a évolué depuis en matière de dissuasion nucléaire et puis aussi en matière de tensions entre l'Est et l'Ouest. À l'époque, la guerre froide sévissait donc entre d'un côté l'OTAN, l'Amérique et ses alliés, et d'un autre côté, le pacte de Varsovie, l'URSS et ses alliés. Une course aux armements n'a fait que s'envenimer jusqu'à un accord entre les deux grands en 1987 qui a permis un démantèlement de grande ampleur.
Et la Belgique a été concernée par l'installation de 16 missiles nucléaires américains à la base de Florennes en 1985. Cette annonce a déclenché un immense mouvement de contestation d'une ampleur inédite en Belgique. L'opposition entre les pacifistes et les atlantistes a marqué la société belge et d'autres pays d'Europe de l'Ouest comme l'Allemagne et les Pays-Bas.
Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? La dissuasion nucléaire est-elle encore efficace ? Que reste-t-il de la question posée à l'époque ? L'OTAN est-il une garantie de sécurité pour l'Europe ou un problème ?
Alors pour en parler avec nous, Willy van der Vorst, qui a été journaliste international à la RTBF, qui a suivi cette crise des euromissiles en Europe. Bonjour Willy.
Bonjour Hélène.
Un souvenir en particulier de ce moment-là, quand vous y repensez, qu'est-ce qui vous revient en premier ?
Je crois que ce qui revient dans la tête de tout le monde, c'est l'ampleur des manifestations qui se sont déroulées à Bruxelles. Vous avez cité une manifestation, mais elles ont commencé en fait assez tôt, donc à la fin des années 70, et elles ont duré jusqu'après l'arrivée des premiers missiles Pershing ici en Europe. C'est des manifestations où il y avait beaucoup plus de néerlandophones que de francophones. C'est un détail important parce que le mouvement anti-missile, anti-guerre est plus important en Flandre, est plus actif en Flandre. Et c'est lors de ces manifestations, c'est des défilés de grands-parents avec des poussettes. Il n'y a pas que, évidemment. Il y a des militants de toutes sortes d'organisations, mais il y a beaucoup de parents qui sont venus passer le dimanche, notamment la grande manifestation d'octobre 83, qui sont venus là en famille. Ils étaient perdus dans une foule de combien ? 300, 400 000 personnes.
Avec nous également Yannick Kéau, bonjour.
Bonjour.
Le directeur du GRIP, c'est le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité qui est né à cette époque-là, d'ailleurs, ce groupe de recherche. Est-ce qu'une partie des questions qu'on se pose aujourd'hui sur le risque de confrontation entre l'Est et l'Ouest, sur le poids de l'arme nucléaire, elle peut trouver des réponses, Yannick Kéau, dans cette crise des euromissiles des années 80 ?
Pour une partie d'entre elles, absolument. Il y a des éléments de continuité, des principes fondamentaux qu'il faut rappeler sur les armes nucléaires, sur la logique de dissuasion. Après, effectivement, les contextes et la transposition littérale du contexte des années 80 à ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine, il faut s'en méfier, on frappe très vite de nombreuses limites.
On va continuer à en parler après. Après notre évocation sonore, on se replonge tout de suite au milieu des années 80.
Nous sommes le 15 mars 1985. Il est 7h du matin à Bruxelles. Wilfried Martens, Premier ministre, dort encore. Soudain, il est tiré brusquement de son sommeil par la sonnerie du téléphone. C'est son ministre de la Défense, Alfred Vreven, qui le réveille. Il vient d'apprendre que deux avions gros porteurs américains se dirigent vers la Belgique avec à bord 16 fusées équipées de têtes nucléaires. Des fusées qui doivent être installées à Florennes. En pleine guerre froide, l'information est capitale, mais Wilfried Martens dit dans ses mémoires qu'il s'est rendormi. Pas longtemps, sans doute, car il le sait, il reste un léger détail à régler. Annoncer officiellement au Parlement que la Belgique s'apprête à devenir la tête de pont de la dissuasion nucléaire américaine contre les Soviétiques. Wilfried Martens enfile son costume noir et ses célèbres lunettes carrées et s'en va au Parlement.
Le gouvernement est arrivé à la conclusion que, conformément à la déclaration gouvernementale du 18 décembre 1981, il doit confirmer aujourd'hui la décision qu'il a prise le 12 décembre 1979 et le 19 décembre 1980 en solidarité avec les Alliés, et il a donc donné son accord pour le déploiement des 16 premiers missiles.
Pendant que Martens parle, les avions américains sont déjà en approche. La pression sur le Premier ministre et à travers lui sur la Belgique est on ne peut plus clair. L'annonce de l'arrivée des missiles américains en Belgique fait les gros titres un peu partout. À Washington, Moscou, Paris, on parle de la course aux armements contre les Soviétiques. C'est donc l'effervescence à Bruxelles. À Florennes, par contre, la petite ville du Namurois reste calme. Ici, la base aérienne fait partie du paysage. Dans un café du centre-ville, quatre hommes jouent à la belote et ils sont interrompus par un journaliste de la RTBF.
Bonjour, le Premier ministre va l'annoncer à la Chambre d'un instant à l'autre. Les euromissiles seront implantés prochainement en Belgique.
L'annonce de l'implantation des euromissiles n'a pas l'air de vous distraire de vos activités.
Non, pas tellement.
Pas du tout.
Donc la petite belote, l'après-midi, c'est sacré chez nous, alors on en profite.
Ça va à tout.
C'est un problème qui ne vous inquiète pas?
Ça dépend dans quelle mesure vous appelez inquiété. Vous savez, ici, nous avons toujours eu une base opérationnelle ici à Florennes. Qu'il y ait missiles ou non, ça ne doit guère changer, quoi, à mon avis. Mais...
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, moi, qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas. Oui, ils viennent pas.
Personne ne souhaite d'avoir des missiles chez nous, ça je ne le crois pas. C'est complètement absurde. Hein. Mais si on considère ça comme moyen de défense, on peut le prendre à considération aussi.
Ils sont placides, les joueurs de belote de Florennes. Pourtant, cette arrivée fait suite à près de 5 années de débats, de controverses intenses. La crise des euromissiles, comme on l'a appelée, a donné lieu aux plus importantes mobilisations humaines dans le pays depuis la guerre. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il faut se replonger en 1977. Cette année-là, les Soviétiques installent des nouveaux missiles nucléaires, des SS-20, aux frontières de l'Europe. Beaucoup plus performants que l'ancienne génération, ils font craindre à certains membres de l'OTAN un déséquilibre dans la dissuasion nucléaire. En réaction, l'OTAN décide en 1979 d'installer de nouveaux missiles. La course aux armements reprend donc de plus belle après quelques années d'apaisement. Pour l'éviter, des négociations sont menées à Genève. Mais quand il arrive au pouvoir, Ronald Reagan ne veut rien lâcher aux Soviétiques. À Orlando, le 8 mars 1983, devant l'Association nationale des évangéliques, il explique pourquoi il est moralement opposé au désarmement.
Dans vos discussions sur le gel nucléaire, je vous exhorte à vous méfier de la tentation de l'orgueil, de la tentation de vous déclarer au-dessus de tout et de renvoyer les deux camps dos à dos. Attention d'ignorer les faits de l'histoire et les pulsions agressives d'un empire du mal, pour simplement considérer que la course aux armements est un malentendu. Si vous pensez ainsi, vous vous retirez de la lutte entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal.
Ronald Reagan veut relancer la course aux armements pour affaiblir l'Union soviétique. Ce sera donc Pershing et Griffon américains contre SS-20 soviétiques. Le ministre des Affaires étrangères belge, Leo Tindemans, approuve cette escalade et va même le dire à Moscou.
Moi, j'ai souligné l'aspect européen de cette question terrible, puisqu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, je dirais presque, de la défense de l'Europe occidentale et de notre sécurité. J'ai dit que ce n'est pas une affaire uniquement des Américains et des Soviétiques, il s'agit de notre sécurité, de la sécurité de la Belgique, puisque des SS-20 sont braqués sur la Belgique. Et j'ai pu citer les villes, Anvers, entre autres, qui sont visées par ces missiles. Et donc, il s'agit de notre sécurité. Ce sont les Européens, le chancelier allemand Helmut Schmidt, qui a signalé l'existence de ce problème aux alliés de l'OTAN. Ce sont encore une fois les Européens qui ont proposé l'option zéro, c'est-à-dire pas d'engins de ce genre sur le territoire européen. Ce sont les Européens, encore une fois, qui ont suggéré de proposer une solution intermédiaire, ce que le président américain a fait. Donc il ne s'agit pas d'une mesure imposée par les Américains, mais bien de suggestions formulées par les Européens. Et j'ai essayé d'expliquer cela à mon interlocuteur.
Est-ce qu'il était réceptif ?
Il a très bien écouté. Sans aucun doute, j'étais très content de l'entretien et il m'a exprimé la même opinion.
Est-ce que vous avez le sentiment que les Soviétiques souhaitent arriver à un accord à Genève ?
Oui, incontestablement. Tout en critiquant et en rejetant la dernière proposition du président Reagan, il parle de Genève comme de l'endroit où l'on doit négocier.
À défaut de retrait concerté décidé à Genève, les Américains avancent donc leurs missiles pour contrer les Soviétiques. En Europe, cette annonce crée une réaction de rejet puissante dans une partie de l'opinion. Des manifestations ont lieu dans plusieurs capitales, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Le 23 octobre 1983, les rues de Bruxelles sont noires de monde.
C'est devant la gare du Nord, sur l'esplanade du World Trade Center, que les manifestants, 400 000 selon les organisateurs, 120 000 selon la police, se sont rassemblés pour écouter le discours de Pierre Galland, président du CNAPD.
Non, nous ne sommes pas, monsieur Knops, quelques gogos. Nous sommes des centaines de milliers de gens conscients de l'enjeu pour la paix.
Le célèbre hymne de John Lennon retentit alors que le crépuscule couvre les effluves de cette journée presque estivale. 120 000 personnes selon la police ou 400 000 selon les organisateurs. On ne sait toujours pas aujourd'hui quel chiffre est le plus proche de la réalité. Mais quoi qu'il en soit, la mobilisation est massive, une sorte de marche blanche avant la lettre. Et ces marches seront sans effet. Un mois plus tard, les négociations de Genève sont suspendues et les missiles seront bien déployés. Mais le camp de la paix ne désarme pas. Dans les centaines de milliers de personnes, on retrouve des dizaines d'associations pacifistes du Nord et du Sud, mais aussi plus classiquement les mutualités et les syndicats.
À la FGTB, on est pour un désarmement complet. Mais en Belgique, la situation à laquelle on est confronté, c'est l'implantation de missiles américains. Donc, c'est par rapport aux missiles américains qu'il faut réagir. Et en tant que population belge, bon, les travailleurs doivent absolument se battre contre l'installation de ces missiles.
Au sein du mouvement pacifiste, il y a des nuances. Les communistes s'opposent surtout à l'OTAN, considérée comme outil de l'impérialisme américain. Mais du côté des syndicats chrétiens, par exemple, on renvoie dos à dos américains et soviétiques. Ce 23 octobre, il y a aussi des partis politiques. Les opposants au gouvernement Martensgöll, qui eux sont favorables à l'installation des missiles, le PS ou le SP, le parti socialiste flamand particulièrement en pointe. Mais il y a aussi les jeunes CVP, dont le parti est pourtant au gouvernement. Les partis socio-chrétiens ont la particularité d'avoir en leur sein des pacifistes, ce qui les met en difficulté face aux libéraux, emmenés par Jean Gol, qui lui assume.
Je crois qu'ils sont généreux, c'est indiscutable, beaucoup d'entre eux en tout cas. Certains sont un peu manipulateurs. Il est évident que la participation des communistes dans ces manifestations n'est pas faite pour nous étonner. Le rôle important qu'ils y jouent n'est pas fait pour nous étonner non plus. Donc il y a les manipulateurs et les manipulés. Il y a ceux qui tirent les ficelles et puis il y a les pigeons. Et puis il y a des gens qui, très honnêtement et très sincèrement, me semble-t-il, croient que c'est ainsi qu'ils vont défendre la paix. Je suis d'un avis tout à fait différent. Je crois que la guerre naît du déséquilibre, de l'inégalité des forces et de la tentation du plus fort de recourir aux armes.
Cette tension entre pacifistes et atlantistes se retrouve donc à l'intérieur du gouvernement belge. Durant plusieurs années, cela aboutit à un compromis boiteux. Le principe des euromissiles est confirmé, voilà pour satisfaire les libéraux, mais le déploiement est suspendu au résultat des négociations internationales en cours entre Américains et Soviétiques, voilà pour satisfaire les sociaux-chrétiens. Sauf que cette position mi-chèvre mi-chou énerve Washington et devient intenable. Début 1985, Wilfried Martens se retrouve à la Maison-Blanche, au rapport chez Ronald Reagan. Il en ressort avec une position belge beaucoup plus ferme qu'en entrant.
Ici, c'est quelque chose d'extrêmement important et nouveau. Jusqu'ici, on parlait d'évaluation. Maintenant, on va vers une décision. Plus d'évaluation, une décision avant la fin du mois de mars sur un calendrier d'exécution et une décision qui sera concertée et convenue avec nos alliés de l'OTAN.
Que s'est-il passé dans le bureau ovale entre Martens et Reagan pour que le Premier ministre annonce une décision ferme d'installation des missiles? Dans ses mémoires, Wilfried Martens avance sa version et elle est pour le moins édifiante. Il explique que Reagan n'a pas été informé des nuances de la position belge par les affaires étrangères. Pire, la Maison-Blanche avait déjà reçu l'assurance d'un ministre belge qu'une décision avait bien été prise pour installer les missiles le 15 mars. À la manœuvre entre les lignes, Wilfried Martens pointe son éternel rival au sein de son parti, Leo Tindemans, ministre des Affaires étrangères. Et pour preuve, il explique avoir découvert un mémo secret datant de 1983, un mémo rédigé par les services secrets américains qui révèle que la date de mars 85 pour installer les missiles a été fixée avec les Affaires étrangères bien avant l'accord intervenu entre les partis politiques. Beaucoup de gesticulations pour une décision visiblement déjà prise à des niveaux plus profonds de l'État.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand N.
Alors ce récit s'arrête au beau milieu de cette crise des euromissiles. Elle va se résoudre assez rapidement après, on va y venir. Mais avant ça, on est donc en 1985, les missiles arrivent à Florène. Willy van der Vorst, le gouvernement belge de l'époque, le fameux gouvernement Martens-Goll, on sent qu'il est tiraillé, il a attendu le dernier moment, le tout dernier moment même, puisque les missiles sont déjà dans l'avion en train de voler vers la Belgique, pour annoncer que ces missiles allaient arriver.
Oui, et c'est à l'image de la vie politique du moment, parce que depuis les années 70 et jusqu'après cette crise des euromissiles, on se retrouve avec des gouvernements qui changent sans arrêt. Il y en a plusieurs, il y a combien 8 gouvernements Martens ou 9 gouvernements Martens pour dire que régulièrement les coalitions doivent évoluer. Résultat, au moment de prendre la décision, le gouvernement belge, début des années 80, décide d'un moratoire. Quelques mois après, un autre gouvernement arrive, il décide, peut-être plus tout à fait d'un moratoire, mais de refaire un bilan tous les 6 mois. Et puis un autre vient en rappelant, oui, mais nous avons dit qu'on va déployer. Les autres disent, ok, on va déployer, mais on veut quand même avoir l'assurance que les négociations de Genève vont aboutir sur un bon résultat. Donc vous êtes dans une espèce de confusion totale. Tout le monde part dans tous les sens, le dossier file un peu à gauche, file un peu à droite, et on arrive à une décision qui est prise de manière assez étrange, alors que les avions sont déjà en train d'amener les missiles de croisière.
On n'est pas les seuls, d'ailleurs, les Pays-Bas aussi ont eu beaucoup de difficultés à prendre ces décisions. D'ailleurs, les missiles ne sont jamais vraiment arrivés aux Pays-Bas, hein, Willy van der Vorst. Yannick Keo, il y avait un contexte de crainte de guerre nucléaire à l'époque ? Pour qu'on se replonge, est-ce que c'est un peu comparable avec la crainte qu'on peut vivre aujourd'hui avec la guerre en Ukraine ?
Alors, sous certaines dimensions, oui, parce que la crainte du feu nucléaire et de ce que représente une bombe nucléaire existe encore. Mais à l'époque, le contexte est quand même fondamentalement différent. Vous avez une logique de bloc, une alliance OTAN face à un pacte de Varsovie. Et pendant tous les premiers temps de la guerre froide, en fait, la compréhension qu'on a aux États-Unis, c'est que les Russes sont supérieurs sur un plan conventionnel. Donc, il faut nucléariser rapidement l'alliance atlantique. Il faut déployer des armes nucléaires en Europe. Et il faut faire des armes nucléaires le pilier de la sécurité collective au sein de l'OTAN. Donc c'est déjà l'OTAN qui nucléarise la guerre froide très rapidement au départ. Bon, les Russes obtiennent aussi la bombe nucléaire et ils se lancent très progressivement dans une surenchère au niveau des bombes nucléaires avec un inversement de tendance. Dès la fin des années 70, enfin, dans la seconde moitié des années 70, on voit les Russes obtenir plus d'armes nucléaires et posséder plus d'armes nucléaires que les États-Unis. Et là, du côté de l'OTAN, on se dit on est en train de basculer d'un autre côté, dans une autre dynamique. Et il y a cette volonté de Ronald Reagan de freiner cette sensibilité, du moins cette perception que l'OTAN est en train de se retrouver dans une forme de situation de faiblesse et qu'il faut la contrer. Il y a aussi ce déploiement des SS-20, vous l'avez mentionné, il ne s'agit pas d'avoir juste des têtes nucléaires, il faut avoir aussi les vecteurs pour s'assurer qu'on puisse détruire l'adversaire et les lancer comme il faut. Donc il y a toute une nouvelle génération de missiles qui arrivent en même temps, dans ce moment-là, de la fin des années 70, du tout début des années 80, qui voit l'Union soviétique et ses alliés avoir plus d'armes nucléaires que l'OTAN.
Alors, comment ça se termine, Yannick Queault, cette crise ? Il y a un accord, en fait, entre les deux grands. Hein, 2 ans après l'arrivée des missiles en 85, donc en 87, il y a un grand accord qui permet donc de trouver une solution. Et ça, c'est quand même quelque chose à souligner, c'est qu'on se parlait entre les deux grands blocs.
C'est assez nouveau en fait. Vous avez deux Ronald Reagan. Vous avez celui du discours dont vous avez parlé devant ce lobby chrétien aux États-Unis où il parle d'empire du mal et où il est vraiment pris dans une logique où il faut contrer l'Union soviétique dans ce qu'elle représente comme menace à la sécurité internationale. Et il y a la fenêtre, l'ouverture arrivée par Gorbatchev et le second mandat de Ronald Reagan où il vous dit on peut discuter, on peut arriver à des accords plus globaux sur un désarmement qui va au-delà d'ailleurs de la crise des euromissiles. On peut s'entendre sur le maintien des préceptes de la destruction mutuelle assurée sans aller dans la surenchère. On n'a pas besoin d'avoir 70 000 armes nucléaires dans le monde pour assurer la destruction et un changement
donc
civilisatif.
Donc à l'époque, il y avait à peu près, Yannick Queault, 70 000 armes nucléaires en 1985 dans le monde.
Oui, c'est ça, avec des estimations qui sont autour de 40 000 pour l'Union soviétique et puis finalement largement moins, autour de 25 000 pour les États-Unis au pic de la guerre froide et le reste des acteurs nucléaires qui se partagent un peu le reste. Donc il y avait un déséquilibre assez majeur. Ça avait un coût aussi sur les appareils militaires et sur la ponction, la richesse nationale. Ça avait un impact assez élevé. Et on s'est entendu pour se dire que finalement, on pouvait réduire ce stock-là. Les effets corrosifs que ça entraînait dans la compréhension que la menace qu'incarnait l'autre représentait pour soi-même et qu'on pouvait descendre les stocks tout en maintenant les principes fondamentaux de la destruction mutuelle assurée.
Oui, Van der Voorst, peut-être quand même un mot sur ces fameux 16 missiles qui sont arrivés ici en 1985. Ils arrivent à Florennes et puis quoi ? Qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Ces missiles ont été installés. C'est une première partie d'un lot de 48 missiles de croisière qui doivent arriver. Rappelons quand même que la décision prise aux États-Unis et à l'OTAN, c'est de dire qu'on va installer 108 missiles Pershing, qui sont des missiles qui devaient être installés en Allemagne. Et de l'autre côté, il y a 464 missiles de croisière. L'accord de 1987 prévoit de tous les anéantir et disons que le dossier s'est terminé beaucoup plus rapidement qu'il n'a débuté. Surtout pour la Belgique, ces missiles ont été, en vertu de l'accord de 1987, ont été détruits dans les 3 ans après la signature. C'était convenu dans cet accord. Donc tous ces missiles devaient être installés dans 5 pays européens. Il y avait le Royaume-Uni.
Où la Belgique était un hub en fait.
L'un des endroits où ça devait être déployé. Il y a eu des grandes manifestations également au Royaume-Uni, il faut rappeler ça. Ils étaient également très forts en tête dans les manifestations et beaucoup moins en France. France, rappelez-vous, avec la phrase de Mitterrand qui dit « Les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est ». C'est quand même quelque chose qui est important également dans ce débat. C'est intervenu, cette phrase, quelques jours après la grande manifestation d'octobre 83 chez nous. Mais donc, cela dit, les missiles Pershing, les 108, devaient être installés en Allemagne et les 4 autres pays devaient installer des missiles de croisière. Les 4 pays, c'est l'Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique. Et donc ces missiles devaient être mis là si jamais les négociations de Genève n'aboutissaient pas pour justement pouvoir neutraliser ou contrebalancer la présence des SS-20 du côté soviétique.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Et on continue à retisser le fil de cette histoire des euromissiles dans les années 80. Un puissant mouvement pacifiste né de l'annonce des missiles nucléaires américains en Europe. On l'a entendu, plusieurs manifestations ont lieu entre 150 et 400 000 personnes dans la rue en 1983. Bertrand, c'est autant que la Marche Blanche.
Oui, et quelles leçons tirées de cette crise des euromissiles aujourd'hui? J'ai posé la question à celui qui a sans doute le plus incarné le camp pacifiste, l'opposition aux euromissiles côté francophone, c'est Pierre Galland de la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie.
Mais je garde un souvenir évidemment très, très enthousiaste de ce que nous avons pu faire, parce que si à l'époque on a pu mobiliser autant de gens, c'est parce que la société en général était structurée de manière très différente à ce qu'elle est aujourd'hui. À l'époque, les organisations de jeunesse, les organisations de paix, les organisations de coopération et développement, il y avait une capacité de mobilisation citoyenne qui venait du fait qu'elles étaient implantées partout sur le territoire, que ce soit en Flandre ou que ce soit en Wallonie. Et donc, mon souvenir, c'est d'avoir fait toutes les routes de Wallonie, toutes les nuits que j'ai passées à rentrer sur Bruxelles après avoir fait un débat dans un petit village, dans une petite ville, et toujours sur ce thème de la sécurité, de la coopération et de la situation des missiles en Europe. Donc, il y avait un tissu associatif différent de ce qu'il est aujourd'hui, et cela, on était porté, si vous voulez, à ce moment-là, parce que les gens avaient pris conscience et adhéraient à nos propositions, à nos revendications, qui étaient celles de refuser l'implantation de missiles nucléaires sur le territoire belge. Et nous le faisions en coordination, vraiment tout à fait suivie, avec nos collègues anglais, allemands, hollandais, italiens. Tout ça se faisait en coordination.
Pierre Galland, s'il y a une leçon qu'on peut tirer aujourd'hui en 2022 de ce qui s'est passé dans ces années 80-là, de ce débat qui a eu lieu en Belgique, de cette crise des euromissiles où on a vu monter l'armement nucléaire et aussi la crainte d'un affrontement entre les deux grands qui a finalement été, en partie en tout cas pour cette question des missiles intermédiaires, résolu. Quelle leçon on peut tirer?
Eh bien, on peut tirer une leçon. J'étais à Genève récemment et je parlais avec un ambassadeur belge très impliqué dans tout ce qui est les négociations, parce que Genève était le lieu de négociations sur tous les grands accords pour limiter les têtes nucléaires, limiter les armes porteuses de têtes nucléaires, limiter les armes à munitions multiples, etc., etc. C'était à Genève. Et je lui dis, et comment ça se passe aujourd'hui ici à Genève? Et il me dit, aujourd'hui Genève, ce n'est plus que l'insulte et l'invective. Voilà le problème. On a abandonné la nécessité absolue pour notre monde, pour notre planète, pour les habitants de cette planète, d'avoir des lieux et des personnes responsables de négocier et d'anticiper ce que sont les endroits où il y a des dérapages, des fêlures de notre planète, des drames qui sont en train de se produire, même ceux de la faim. Et donc, on est un peu là, bouche bée aujourd'hui. On doit absolument, et c'est là pour moi le plus important, c'est comment allons-nous recréer les instruments et les lieux où l'on discute du désarmement, où l'on discute de la solution qu'on peut apporter aux guerres. Je trouve qu'on est donc dans un moment où on est dans une fragilité absolue parce qu'on a fait confiance, excusez-moi de le dire comme ça, on a trop fait confiance à l'OTAN qui a pris tout l'espace concernant la sécurité, et on a abandonné tout ce qui était l'Office de la sécurité et de la coopération en Europe, les accords qui étaient extraordinaires à l'époque autour des accords d'Helsinki, les gens qui en même temps portaient ces projets-là, c'était bien sûr les mouvements de la paix, mais c'était aussi les grands responsables politiques. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où le mur tombe, eh bien, M. Clinton, qui n'est pas particulièrement pacifiste, il va aider les Russes à réduire leur stock d'armes nucléaires. Il va payer pour la réduction des armes nucléaires en ex-Union soviétique. C'est comme ça que les Ukrainiens vont liquider leur stock d'armes nucléaires sur leur sol. Donc il y a eu là toute une volonté, tout un plan, un projet politique qui était porté par les institutions des Nations Unies, par des gens qui avaient une vision. Et moi, je crains malheureusement que parmi nos hommes politiques, et en particulier ceux qui sont au sommet de l'Europe aujourd'hui et qui groulent des mécaniques sans arrêt pour dire on va être très méchants, eh bien, il n'y a pas de personnalité pour dire qu'est-ce qui va se passer le jour d'après. Comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on construit la solution qui doit venir pour qu'il soit mis fin à cette guerre, pour qu'on ait une vraie compassion pour les populations ukrainiennes, au lieu de dire on va les accueillir généreusement. Il faut les accueillir, mais il faut avoir aussi savoir quel est le jour d'après, comment on fait. Et ça, aujourd'hui, ça manque lourdement. Et c'est entre autres dû à ce qu'on n'a pas imaginé que les États-Unis voulaient maintenir une espèce d'unipolarité autour d'eux et qu'on doit aller vers une conception du monde multilatérale dans lequel, eh bien, les grands mouvements mondiaux qui se produisent aujourd'hui, que ce soit en Inde, que ce soit en Chine, que ce soit en Afrique, il y a des plaques tectoniques qui bougent, notre humanité est en mouvement et nous sommes en train, nous, de nous retrouver 25 ans plus tard en pleine guerre froide. Eh bien, nous sommes en retard. Nous devons avoir une nouvelle conception de la gestion planétaire fondée sur le multilatéralisme, fondée sur une réforme des Nations Unies. Il faut réformer les Nations Unies. Ce Conseil de sécurité ne joue absolument plus son rôle. Et donc, soyons capables en même temps d'être généreux vis-à-vis de ces populations qui sont en souffrance et de dénoncer le crime de M. Poutine. Il y a suffisamment d'autres priorités pour le bien-être des populations pour que nous prenions conscience de l'urgence de cette question, comment réformer les Nations Unies, les rendre capables de jouer leur rôle pour la paix, de jouer leur rôle pour le développement, de jouer leur rôle pour le climat et de faire en sorte que l'accident qui s'est produit aujourd'hui, ce soit vraiment un dernier avatar de la confrontation Est-Ouest, alors que nous devons avoir une vision globale de notre planète et des besoins des populations de cette planète.
Alors Yannick Kéo, le message de Pierre Galland, c'est on manque d'une vision multipolaire, plus globale en matière de sécurité. Après la chute du mur, on a eu une vision unipolaire, celle de l'OTAN qui est devenue un petit peu beaucoup trop majeur selon lui, hein, c'est ce que dit Pierre Galland. Je ne vais pas vous demander peut-être si vous êtes d'accord avec lui, mais en tout cas, est-ce qu'il y a de ça? Est-ce que on paye aujourd'hui peut-être un monde qui a été trop unipolaire pendant trop d'années?
On paye aujourd'hui un manque de compréhension pour les préoccupations sécuritaires d'autres acteurs et les préoccupations qui sont relativement légitimes d'ailleurs. On a un peu tendance à qualifier d'agressifs des développements à travers les programmes des routes de la soie pour la Chine, par exemple, à travers les revendications des Russes ou leurs préoccupations sur la sécurité. On les conçoit d'emblée, dans une optique sécuritaire, comme une menace à l'ordre international, alors que fondamentalement, il y a derrière ça des éléments de légitimité. Il s'agit pour certains acteurs de se dire nous avons le droit, nous aussi, à avoir une voix au chapitre lorsqu'il s'agit de décider comment est-ce qu'on doit organiser le partage de ce qui peut être exploité sur la planète et les moyens de développement de nos populations. Il y a des risques qui sont associés à ces revendications d'États qui sont loin d'être démocratie et loin d'être respectueux du droit international, et il faut en être conscient. Mais on a la volonté tout de suite à vouloir décrédibiliser toute forme de légitimité chez l'autre pour mettre de l'avant la dimension sécuritaire et le risque. Ça, c'est totalement vrai et là-dessus, je peux rejoindre Pierre Galland sans problème.
Willy van der Vorst, on a plus de mal à communiquer aujourd'hui entre deux blocs. Il y a moins de canaux, il y a moins de pratiques de la communication.
Les canaux sont toujours là. C'est la volonté peut-être qui manque, c'est peut-être ça qui crée un grand vide entre l'Est et l'Ouest. C'est vrai qu'à l'époque de la guerre froide, où on avait ce bloc, vous l'avez rappelé, OTAN contre Pacte de Varsovie, il y avait une opposition, il y avait des échanges qui se faisaient aussi. Rappelons qu'au début de la crise des euromissiles, les Belges décident d'installer ces engins, mais en même temps prônent une discussion, un dialogue, une négociation visant au désarmement. C'est dans l'air du temps. En fait, à la fin des années 70, déjà aux Nations Unies, il y a une session spéciale consacrée aux Nations Unies et désarmement. Donc, l'espace est là pour discuter. Il est toujours là aujourd'hui. Mais pour ça, il faut effectivement que la volonté soit dans les deux camps bien partagée.
Yannick Kéo ?
Oui, cette volonté politique, elle est fondamentale en fait, parce qu'on a tendance à dire que ce sont des leaders qui prennent des décisions rationnelles sur les enjeux de sécurité. Or, en fait, les mouvements pacifistes de cette période-là ont eu un impact très fort et très marquant sur toute une génération de leaders politiques, sur la nécessité aussi et la prise de conscience aussi d'une forme de ras-le-bol par rapport à tout un artifice militariste qui était mis en avant dans les deux blocs pour légitimer l'emprise de toute une dimension militaire sur la société. Ça avait un coût accentué d'autant plus par le fait qu'on sortait des années 70 avec des chocs pétroliers qui avaient eu des effets durables en termes de chômage et ainsi de suite. Donc il y a eu tout un tissu relationnel, associatif qui s'est créé là-dedans en disant on ne peut plus vraiment accepter ces genres de discours en les prenant pour du cash, on ne peut plus accepter que ces gens-là nous imposent une vision extrêmement corrosive de la rivalité Est-Ouest avec pour finalité comme quoi notre sécurité serait associée par la certitude de pouvoir détruire le monde si l'un ou l'autre venait à employer la force. Donc ça, ça a été assez fondamental. Et le gros contraste, c'est effectivement les forums existent, mais dans toutes les années 90 et jusqu'en les années 2000, on a vu cette architecture de sécurité qu'on avait péniblement construite, ce dialogue à travers différents traités qui, isolément, ne veulent pas dire grand-chose, mais ensemble, formaient un mode de gestion de la rivalité nucléaire. On les a vus être dénoncés les uns après les autres. Le traité anti-ballistique missile, ABM, le traité sur les forces intermédiaires en Europe. Et là-dessus, on a perdu pied sur ce qui constituait les bases du dialogue stratégique entre puissances nucléaires.
Au Donc point... ce fameux traité qu'on a... Enfin, pas nous, que les Américains et que les Soviétiques ont signé en 87, en fait, ils en sont sortis.
Oui, enfin non, le START existe encore. Ça, c'est la bonne nouvelle. On a New START et on est d'ailleurs encore dans une phase de renégociation de ce traité-là. Il reste le TNP aussi, le traité de non-prolifération nucléaire reste encore. Mais les puissances nucléaires ont provoqué un agacement chez un nombre suffisant de pays aussi pour qu'on voit émerger un traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui ont renvoyé les puissances nucléaires à leurs obligations en matière de désarmement en disant nous ne tolérons pas que cette menace de destruction du monde par les armes nucléaires soit le garant de la sécurité, nous ne le permettons pas et nous nous unifions à travers la signature d'un traité. Donc ça, c'est assez significatif aussi.
Oui, Willy van der Vorst, à l'époque, il était peut-être plus facile de négocier avec, entre l'OTAN et le Kremlin, dominé par le Politburo, le Parti communiste, où il y a différentes tendances, que le Kremlin aujourd'hui. C'est peut-être une chose qui change dans les situations avec Vladimir Poutine. On annonce comme très isolé, entouré d'une garde très rapprochée. C'est peut-être aussi une des choses qui faisait qu'à l'époque, dans les années 80, le dialogue a pu aboutir, c'est qu'il y avait des acteurs qui avaient plus de facilité à se parler, qui étaient peut-être plus rationnels aussi, je ne sais pas si je peux le dire comme ça.
Mais la méfiance à l'époque était là également, mais c'était une méfiance d'observation finalement. On observait l'autre et on savait qu'on devait discuter. Il y a eu, pendant une trentaine, une quarantaine d'années de guerre froide, il y a eu ces discussions accompagnées de blocages entre l'Est et entre l'Ouest, mais la volonté était là quand même de ne pas brusquer les choses. Je crois qu'ils se rendaient parfaitement compte qu'appuyer le doigt sur un petit bouton atomique, c'était en fait détruire l'ensemble de l'humanité pour une raison très simple. Vous tirez une bombe atomique sur votre adversaire, ben l'adversaire répond aussi et il répond plus fort.
Ouais, et donc avec vous 70 000 armes,
et donc on se retrouve. Petit détail, quand on regarde les incidents, parce que ça a joué également dans l'approche de l'opinion publique, quand on regarde le nombre d'incidents qui ont eu lieu autour du dossier nucléaire, depuis Hiroshima, Nagasaki, jusque maintenant, vous savez que entre le début et la fin de la crise des euromissiles, et avant ça, il y a eu la crise de Cuba aussi, aussi où on a agité le spectre nucléaire, puisque les Soviétiques installaient des missiles à Cuba. Eh bien, sur cette période-là, il y a eu une trentaine d'incidents impliquant du nucléaire. Il y a eu, parmi ces incidents, par exemple, les Norvégiens qui ont envoyé un jour une fusée météo et qui a créé des reflets sur un radar d'Union soviétique. Et le radar d'Union soviétique a lancé une alerte en disant « nous sommes attaqués ». Il y a eu un autre exemple où les Soviétiques ont détecté une dizaine ou une douzaine de fusées qui venaient des États-Unis. Et en fait, après examen, ils ont vu que ce n'était pas du tout un tir des États-Unis, c'était simplement des reflets de couchers de soleil sur des radars. Bon, quand l'opinion publique entend ce nombre d'incidents, ou entend ce type d'incident, parce qu'il y a la quantité, mais il y a la qualité également, idem pour les armes, quand on entend ça, on se dit que peut-être on a intérêt à manifester pour la paix et pour l'arrêt des négociations, le résultat des négociations avec arrêt de cette course aux armements.
Yannick Kéo, ils en sont où aujourd'hui les stocks d'armes nucléaires?
Alors on n'en est plus du tout à ce point fort de la guerre froide qui a constitué le milieu des années 80. On parlait de 70 000 armes nucléaires. Aujourd'hui on est à 12 705 selon les estimations les plus sérieuses qui sont celles de la Federation of American Scientists pour la nommer. Sur ces armes-là, il y en a 5 980 à peu près, à quelques unités près en Russie et la tendance est à la hausse. Il y en a 5 428 aux États-Unis et la tendance est plutôt à la baisse. Et là, vous avez déjà, entre ces deux pays, encore l'essentiel du stock d'armes nucléaires dans le monde. Ensuite, vous êtes vraiment autour de 350 pour la Chine, 300, un peu moins de 300 pour la France, et puis des 225 au Royaume-Uni, et puis des unités de ci, de là. On pourrait le faire le tour des pays les uns après les autres. Mais vraiment, c'est là qu'est le cœur de la puissance de feu nucléaire. Elle se trouve encore aux États-Unis et en Russie. Mais ce qui compte aussi, c'est le nombre d'armes déployées. Et là, on est sur des ordres de grandeur très différents, 1588 pour la Russie et 1644 pour les États-Unis. C'est-à-dire que le reste d'armes, on a des armes en réserve et des armes qui sont tout simplement en attente d'être désarmées.
Mais cela dit, en termes d'effets, parce que évidemment c'est ça qui est important. Au fond, est-ce que 1600 déployés, 1500 déployés, est-ce que ça change quelque chose que 70 000 à l'époque en termes de destruction et de risque pour l'humanité?
Alors ça change un peu. Mais pas tant que ça, puisqu'on a beaucoup travaillé aussi sur les effets, l'intensité, ce que pouvaient faire ces armes-là, la capacité à les délivrer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc non, la capacité de provoquer un changement civilisationnel à travers une guerre nucléaire, elle est encore malheureusement très présente.
Oui. Et est-ce que la dissuasion nucléaire est toujours efficace? Parce que la dissuasion nucléaire, c'est l'idée que forcément on ne va pas s'attaquer, comme Woody Van Der Voorst l'a rappelé, parce que sinon on va se détruire mutuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la tension qu'on connaît en Ukraine, on est toujours dans une dissuasion nucléaire qui reste théorique, Yannick Kéo?
Alors la dissuasion nucléaire, elle est théorique. C'est d'abord un discours, elle a une dimension psychologique, elle a une dimension pratique. Mais il faut savoir, elle est efficace à quoi? Est-ce qu'elle assure la sécurité du monde? Je ne suis pas d'accord avec ces conceptions-là. Elle teinte de manière très corrosive les conflits. Et on le voit à l'heure actuelle, la dissuasion nucléaire, c'est une permission de faire la guerre. Donc dans cette optique-là, on peut se dire quelque part, oui, la dissuasion fonctionne. Biden l'a rappelé, l'Ukraine, c'est pas l'OTAN. Être couvert par l'article 5 qui garantit la sécurité collective au sein de l'OTAN, c'est une chose. Quand on n'est pas dans l'OTAN, on n'est pas protégé par ça. C'est quelque part une forme de permission à Vladimir Poutine et aux Russes de continuer cette optique-là, puisque le jeu nucléaire change considérablement l'évaluation des risques et par l'un et par l'autre. Et on met énormément de précautions du côté de l'OTAN aujourd'hui à circonscrire les enjeux en Ukraine en disant on fera très attention à ce que ça déborde pas sur l'OTAN parce que là on rentre dans une autre dimension. Donc dans ce sens-là, est-ce que deux puissances nucléaires se dissuadent et se garantissent des chasses gardées ou des capacités d'intervention militaire? Ça, oui, ça marche. Est-ce que c'est une garantie de sécurité collective pour l'humanité? Ça, c'est une autre réponse et à mon avis, la réponse est non.
Oui. Woody Van Der Voorst là-dessus, et peut-être s'il y a une note positive quand même à retenir de cette crise des euromissiles des années 80, c'est que on était beaucoup plus haut en termes de stock d'armes, etc., et qu'on est parvenu par la diplomatie, par le multilatéralisme, à quand même en sortir. Manifestement, on n'a pas retenu la leçon, mais on peut y revenir aussi à un moment donné à cette table de la négociation diplomatique.
La solution à la crise des euromissiles a quand même été apportée par l'arrivée d'un nouveau pouvoir à Moscou.
Gorbatchev.
C'est extrêmement important. Mmh. Oui, Gorbatchev en 1985, il suit finalement plusieurs dirigeants qui étaient tous les plus âgés les uns que les autres. C'est extrêmement important parce que c'est un sang neuf qui permet un dialogue nouveau et Gorbatchev arrive avec une idée nouvelle en disant on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer à accumuler des armes. Ces armes, il faut le préciser aussi, quand on parle de menaces atomiques, ce n'est pas systématiquement des espèces de tours de plusieurs dizaines de mètres qui ont des charges style Hiroshima en 50 fois plus important. C'est aussi des petites armes. Il y a une panoplie de ces armes. Ce qui fait que dans l'équilibre que vous cherchez, ou dans l'équilibre qui est défini par les grandes capitales, il y a également, à côté de cette notion de quantité, il y a une notion de qualité aussi.
C'est pas parce que
c'est pas parce que d'un côté il y a 6000 armes et de l'autre côté 5005 que les 5005 sont plus faibles que les autres. Parfois, l'emploi de ces armes est plus terrible quand vous êtes dans le camp des 5005, parce que ça a par exemple une précision de tir ou des choses comme ça beaucoup plus grande. Alors que de l'autre côté, vous avez une espèce de grosse arme qui rase absolument tout. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Et également, puisqu'on parle du dossier ukrainien, maintenant aussi, il faut tenir compte que ce n'est pas l'emploi d'une bombe. Je parle en image. L'effet Hiroshima, c'est pas ça qui pourrait se produire. Ça peut être pire, mais en plus petite quantité, en plus petite dose.
Merci Yannick Kéo, directeur du GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix, d'avoir été avec nous.
Et merci Willy van der Vorst, journaliste émérite, je vais le dire comme ça Willy.
Comme vous voulez.
Moi j'aurais dit longtemps journaliste à la RTBF.
Longtemps journaliste à la RTBF. Merci Willy d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue.
Avec les archives de la Sonuma et à la réalisation Jonathan Rémy.